Radio Campus Lille, 18h.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France sur les ondes de Radio Campus 106,6. C'est
FM. Reprends ton souffle.
FM et DAB+ pour ce dimanche à 18h jusqu'à 19h pour parcourir ensemble l'actualité geek et ludique. Aujourd'hui, nous sommes deux pour animer l'émission. Il y a même François, je suis accompagné de Dominique.
Salut à tous.
Et nous recevons studio complet aujourd'hui. Ça fait longtemps.
Il reste un micro hein, s'il y a des gens qui veulent passer.
Il y a encore temps. C'est quoi, Lilin
ouais, c'est ça. Vous cherchez le bâtiment avec une antenne et c'est bon.
Nous recevons une partie de l'équipe qui est déjà bien grande, l'équipe de Missora.
Bonjour.
Bonjour.
Avec deux ambassadeurs, avec Geoffrey oui. et Audrey Crépin. Bonjour.
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 Et accompagné donc de Rémi.
Bonjour.
Alors qu'on peut décrire un peu comme le couteau suisse de l'équipe. Voilà, et notamment...
J'ai entendu râleur aussi.
Moi, j'ai entendu manger. Restauration. Steve, également présent.
Oui.
Hashtag DD, sinon les gens ne vont pas te reconnaître à la radio. Alors toi, tu es un peu le spécialiste du jeu, avec un peu de VR, et technicien aussi, ouais. Avec ton couteau suisse. On pourrait t'appeler presque MyGaver, ça tombe.
Non.
Et Roman, qui représente la nouvelle génération également. Alors, on va expliquer, puisque il y a Missora, mais il y a également une association à côté, et il y a une intelligence artificielle qui parle.
C'est ça.
Alors, on vous reçoit parce que la semaine prochaine, c'est le week-end prochain, c'est bien ça?
Oui.
Il y aura donc le festival Missora Night and Day, qui vous permettra, notamment pour faire rapidement, de découvrir et de plonger un peu dans l'univers du jeu vidéo, c'est ça?
Oui, exactement, donc, oui. Pardon.
Alors, sans vraiment, parce qu'on va essayer de détailler au maximum et voir un peu tout ce qu'on va pouvoir y rencontrer, mais quel est l'esprit que vous avez voulu mettre sur ce week-end ici.
Non, pour les gens qui nous écoutent, Missora, donc c'est M-I-S-O-R-A, vous cherchez sur Facebook et vous aurez le détail, vous pouvez suivre en même temps le programme et voir en image ce dont on parle. C'est très simple, je vois l'affiche, je vois borne d'arcade, DJ, concert, rétro gaming, tournoi VR. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a... C'est vrai, s'il y a d'autres choses encore, peut-être des scoops.
Exactement. Oui, alors ben, en fait, le Missora D, maintenant c'est la troisième édition, la troisième année qu'on le présente et qu'on le fait. En fait, c'est surtout aussi pour présenter aussi nos nouvelles machines et nos nouveaux jeux et qui reste quelque chose de 100% Missora. Donc, pour bien m'expliquer là-dessus, c'est vraiment, on propose une journée complète avec nos machines qu'on peut faire aussi des autres salons pour autres. Mais en tout cas, voilà, on propose une journée complètement ludique et sur des anciennes machines, donc sur des bornes d'arcade, sur des arcades voitures, que ça peut être moto, les anciennes bornes japonaises, voilà, c'est un peu de tout. Il y a des kickers aussi, on retrouve aussi maintenant beaucoup d'anciennes consoles. Donc quand je dis anciennes consoles, on parle vraiment des consoles, mais vraiment consoles de salon, hein. On parle pas des anciens ordinateurs ou des choses comme ça, on parle vraiment consoles de salon, par exemple Atari, les premières NES, les premières Sega. On s'est arrêté pour l'instant à la première Xbox, voire une seule Xbox 360, parce qu'après, pour moi, c'est pas assez rétro pour être présenté. Mais alors, après...
Concrètement, c'est simple, j'arrive, je paye l'entrée et je peux
exactement
jouer à tout ce que
exactement
je veux.
Exactement.
Toute
c'est
la journée.
C'est ça l'avantage aussi d'une journée comme ça, c'est que, pour le coup, une fois qu'on a payé son entrée, toutes les machines sont à volonté. Voilà. Il n'y a aucun argent à remettre dans le château. Une fois qu'on est arrivé dedans, qu'on a passé l'entrée, tout est à volonté, toute la journée.
J'ai entendu le mot château. Déjà, ça le fait. On va rappeler où c'est le château d'Étainbourg.
Exactement. C'est le château de Bourgogne à Étainbourg.
C'est près de quelle grande ville, pour situer un petit peu?
Alors,
c'est
juste à côté de Pec.
C'est entre Tournai et Courtrai. Voilà.
C'est ça, ouais.
Pas loin de Roubaix, Tourcoing.
Oui, on est vraiment pas loin. On est à 10 minutes, un quart d'heure maximum. Ouais.
Voilà, donc faut, même si en Belgique, ça reste très près de chez nous. Et c'est le week-end prochain, donc faut vraiment noter ça sur l'agenda. Ça fera une belle petite sortie. On en profite pour faire un petit point agenda de Dominique. Le week-end prochain, il y aura également un autre salon qu'on a reçu dans l'émission, la Japan
Convention à Divion, dans le Nord. Ça porte bien son nom, et oui et non, parce qu'il y aura de tout aussi, du jeu vintage, des exposants, des artisans. On avait reçu Cindy qui était venue nous présenter le salon qu'elle a monté de ses propres mains avec des invités. Le samedi et dimanche, c'est aussi payant, on peut aussi réserver sur place. Vous cherchez Japan Convention Divion sur Facebook ou Google, vous trouvez très facilement.
Pour les fans,
notamment de Bernard Minet, entre autres.
C'est le week-end où il y aura des concerts à suivre, puisqu'on va en parler. Hein, chez Missoret, il y aura également du lourd. Donc, franchement, c'est un bon week-end la semaine prochaine. Hein, on se frotte déjà les mains.
Pour les fans ou les nostalgiques des séries AB, puisqu'il y aura en exclusivité les jumelles des fameuses séries qui n'apparaissent jamais en France. Elles n'habitent même pas. Il y en a une qui habite à Londres. Si je dis pas, elle revient exceptionnellement le voir sa sœur, lui, hop, et elle vient à Divion. Enfin, c'est assez étonnant. Donc pour
l'organisatrice, voilà, est vraiment très fan, on peut le dire, de série AB.
Elle a des bons contacts dans la raison, donc il y aura du monde.
Une petite coutume dans l'émission, c'est d'un peu de regarder le parcours de chacun de nos invités. Oui, je vous scrute autour de la table, ça va être votre moment de gloire ici. Justement, pour voir... comment vous en êtes venu à rejoindre Missora et l'association, on en parlera tout à l'heure. Quel est un peu votre parcours de geek? Comment c'est né? Et voilà. Vous pouvez aller depuis le début à vos souhaits. Et je pense qu'on va laisser l'honneur peut-être à Audrey de commencer. C'est toujours très sympa.
Eh ben, moi, je ne suis justement pas du tout geek. Absolument pas. J'ai joué un petit peu aux jeux vidéo gamine. Moi, mes souvenirs d'enfance, c'est clairement Sonic et la Nintendo. N'en déplaise à mon mari qui est plutôt Sega pour la Nintendo. Lui, c'est Sonic et Sega et non Nintendo. Moi, j'étais plutôt Nintendo et Sonic pour Sega. Clairement, le Missora, c'est la rencontre avec Geoffrey. Et voilà, on a décidé de monter ça ensemble, mais clairement, j'ai suivi mon amoureux dans son aventure, qui est devenu mon aventure. Donc en gros, je suis une nouvelle geek. Voilà, j'apprends au fur et à mesure, avec le Missora, les jeux vidéo, etc., qui n'étaient pas tellement mon monde avant.
Est-ce que c'est devenu une passion ou c'est devenu vraiment un outil presque de travail, un univers de travail, ou des fois tu vas te surprendre à jouer ou...
Alors, non, enfin, la passion, elle est clairement de faire les prestations et de faire rêver les gens.
Donc l'événementiel.
Exactement. Ça, c'est clairement, le Missora tel qu'on le veut, c'est vraiment faire de la magie dans quelque chose qu'on n'a pas forcément nous trouvé quand on allait dans les salons avant. Quand on s'est connus, on n'avait pas forcément cette magie que nous, on voulait recréer. Et c'est pour ça que le Missora est né. Donc, c'est de la passion, elle est vraiment à ce niveau-là, pas forcément au niveau jeu vidéo. Et d'ailleurs, Geoffrey le dira peut-être après, mais quand on travaille là-dedans, la passion, elle est surtout réparer, faire remarcher des choses qui ne fonctionnaient pas. On achète des bornes qui étaient destinées à être à la casse et Geoffrey les répare. Donc, tu vois, quelque part, c'est même pas le jeu qui est la passion, c'est le faire fonctionner et que les gens puissent se resservir de jeux qui ne fonctionnaient plus ou qui n'auraient jamais eu entre les mains si on n'avait pas pu les réparer, quoi.
J'ai une petite question. Pourquoi Missora? Mes connaissances en japonais sont pas assez bonnes pour... qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient l'idée? Le nom?
Tu vas, j'y vais?
Vas-y. C'est...
Ah, alors, Missora, c'est... Il y en a quelques-uns quand même pour revenir un petit peu en arrière, on avait le bar avant aussi à Moucron, le Missora. Et en fait, donc il y a quelques clients qui ont compris. En fait, Missora, c'est vraiment dans un monde de geeks. En fait, Missora aujourd'hui, c'est un personnage dans un manga qui s'appelle Naomi Missora. Et Naomi Missora, c'est un de nos personnages préférés à Audrey et moi, qui est dans Death Note. Dans Death Note, il y a ce personnage-là. Et en fait, pourquoi aussi Missora? Parce qu'en fait, le prénom de ce personnage, donc Naomi, et en fait, moi qui est fan d'arcade, il y a eu la Sega Naomi. Donc voilà. Donc on arrive au bout et okay. On comprend le Missora maintenant. Voilà.
Ça marche.
Et le R Missora qui est alors à l'envers parce qu'on l'a voulu à l'envers.
Et orange.
Et orange parce que dans la Sega Naomi, il y a aussi une lettre orange. Donc enfin voilà, tout revient à. Ou puriste des jeux vidéo. Enfin, des
j'ai noté bords que d'arcade. Il y avait un bar à l'origine de Joanne.
Alors, ben, je vous ferai à ton tour, du coup, vu que tu lui as pris la parole. D'où tout cela est né?
Alors, moi, c'est né vraiment, j'étais vraiment enfant. C'est le monde de l'arcade, surtout, qui m'a plu. Je pense même avant les consoles. Je devais avoir 6-7 ans. J'ai connu ma première borne d'arcade, c'était Snow Bros. C'était dans un camping, c'était dans mon camping quand j'étais gamin. Et en fait, j'ai mis des pièces, mais en francs.
6-7 ans, ça veut dire que tu montais sur une caisse de bière
Exactement. Voilà, c'était exactement ça. En fait, dans le camping où on était, il y avait une salle, et dans cette salle, il y avait des flippers, des bornes d'arcade. Mais il y en avait une qui m'appelait plus que d'autres. Et c'était la Snow Bros, donc pour les puristes ou les joueurs d'arcade, ils reconnaîtront le jeu. Et en fait, ce jeu-là, mais j'ai mis des pièces, j'ai gratté des pièces à ma mère.
Je ferme les yeux, je tape sur les boutons pour d'avoir joué aussi, tu vois, le Snow Bros, je le vois tout à fait.
Ah ouais, c'est mythique. Et donc voilà, c'est parti de là. Et j'ai toujours aimé après les jeux vidéo. Après j'ai eu mon Atari, j'ai eu une Mega Drive, j'ai eu une NES, enfin j'ai eu plein de machines. J'ai surtout après ce qui est console, c'est vraiment Sega chez moi, mais sinon arcade, c'est vraiment les bornes en bois d'époque. Et après par la suite avec mon père, en grandissant, j'ai construit ma première borne en bois avec mon papa et on a construit ça. J'ai fait tout l'électronique à l'intérieur. Et après il est venu que ma femme et moi on s'est dit tiens, on reprendrait pas un bar machin et faire de l'arcade à l'intérieur, ça n'existe plus depuis longtemps, et à Moucron, donc en Belgique, et on a ouvert le Missora Pub en septembre 2016, ouais, c'est ça, en septembre 2016, et on a ouvert le pub, on a fait importer des machines, des machines japonaises, 8 pour mettre dans le bar, et ça a plu. On a vu au fur et à mesure du temps qu'on voulait faire ça, les bandes d'arcade, mais pas servir des bières. Donc voilà. Donc on a préféré arrêter le bar. Mais par contre, on a mon métier premier qui est ingénieur du son. Je fais tout ce qui est concert et spectacle. Donc je vois tout ce qui est jeux de lumière, sono, machin.
Je regarde François, il a la pression du coup. Il est derrière celui qui est derrière la console.
Je n'ose plus appuyer sur le bouton.
Et donc de ce fait, on a eu l'idée de créer un. Enfin, pas de créer, mais on nous a proposé de venir dans un salon. Et en fait, dans ce salon-là, Audrey et moi, on a dit OK, bingo, on veut bien venir, puisqu'on n'a plus le bar, on est libre le week-end.
Ça fait quelques années que je fais les salons, mais partout en France et en Belgique, enfin dans le Nord, effectivement, que ce soit des salons de jeux de société, etc. Il y a toujours des bandes d'arcade maintenant, on va voir des flippers.
Maintenant on en voit toujours. Hein.
Tout est lié, quoi.
Exactement. Et donc, nous, on a pris la décision de faire un salon, de rentrer dans le salon qu'on nous a proposé et de prendre l'animation. Et en fait, on a mis des bornes, mais on n'a pas fait que ça. On s'est fait un stand et on a installé de la structure, des jeux de lumière, des pendrillons, on a mis des plantes, on a refait tout un décor. Comme si que j'étais en prestation traditionnelle pour un événement traditionnel, sauf que dedans, au lieu de mettre des invités, on a mis des bornes d'arcade. Et ça a donné la magie, en fait, ça a opéré. Les gens arrivent, voilà, les yeux qui brillent parce qu'il y a des jeux de lumière, ça bouge, machin. Et voilà, et donc le concept est né et on a aimé tous les deux. Donc voilà. Et au fur et à mesure, on a acheté des machines.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça prend beaucoup de place.
C'est ça. Oui, mais ça fait 2016 à peu près. Oui, on en a vu même dans le Nord, à Lille, fleurir des bars à jeux, des bars à console, etc. Ouais. Qui ont plus ou moins marché. C'est vrai qu'avec le Covid après, il y en a quelques-uns qui ont dû changer.
Ouais, malheureusement, arrêté. Ouais. Dommage.
Mais oui, importer des consoles du Japon, les Astro City et compagnie. Mmh. Oui,
alors, est-ce que tu joues aussi? Tu profites un peu de tes consoles d'arcade de temps en temps?
Le seul moment où j'en profite vraiment,
c'est quand tu les installes,
c'est quand je les répare et que je les teste. Oui. Ça me donne envie d'essayer parce que voilà, mais je vais me lasser au bout de 15 minutes du jeu. Mais vraiment, en fait, je peux passer 2 ans, ça m'arrivait plus d'une fois à réparer des machines, par exemple une vieille House of the Dead, ça m'a mis 2 ans, un peu plus de 2 ans à retrouver toutes les pièces d'origine, machin et tout ça. Maintenant qu'elle fonctionne, ben, je joue pas avec.
Non, mais elle fonctionne.
Elle fonctionne. Donc voilà, en fait, moi, c'est plus là-dedans, quoi. Et au moment que je joue, c'est quand on est en convention et qu'on est avant ou après convention et qu'avec, par exemple, Dédé ou Rémi, et on dit, bon, ben voilà, ça ouvre dans une demi-heure, qu'est-ce qu'on se fait? Bon, ben on se fait un petit kick ou un truc comme ça.
Alors, si je peux me permettre, ça arrive très rarement parce que avant les salons, il était toujours dans le rush d'une machine que tu dois réparer ou d'un truc.
C'est très rare, j'avoue. On reçoit régulièrement des gens qui font des expositions, des salons, des festivals. C'est rare qu'on les entende dire, bon, écoute, une demi-heure, tout est prêt, tout marche, tout le monde est là, tous les invités sont prêts. C'est bizarre.
Ça n'arrive pas chez nous.
Non, c'est pas possible.
Alors, Roman, toi, tu vis un peu maintenant dans cette passion que partagent tes parents, c'est ça?
Ouais, bah, j'ai été plongé depuis tout petit dedans. Et bah, quand ils ont évolué après le bar, ils sont partis dans tout ce qui est salon, tout ça. Bah, moi, j'ai suivi et j'essaie de donner des coups de main comme je peux.
Et du coup, Tu aimes le rétro gaming ou t'es plus passionné des nouvelles technologies?
Je touche un peu les deux. Moi, quand je suis chez moi dans ma chambre, je préfère jouer à tout ce qui est PS4, tout ça. Mais dans les salons, j'aime bien vraiment jouer par exemple au vieil Nintendo, au vieil Sega, aux bandes d'arcade, tout ça, j'aime bien.
Et c'est marrant de voir qu'il y a toujours un attrait des jeunes maintenant pour revenir aussi sur des anciennes consoles ici et des vieux jeux.
On le voit aussi même dans les braderies, les brocantes, quoi.
Ouais,
les gens se précipitent dès qu'il y a des consoles, des vieilles cartouches, etc. Puis maintenant, les gens savent, les vendeurs savent que ça peut avoir de la valeur. Exactement. Donc ils font attention et la connaissance, tu peux plus te faire avoir, quoi. Avant, tu pouvais trouver des vieilles consoles à faire des super affaires, mais maintenant les gens sont au courant, ils ont internet et c'est ils savent que ils font des recherches.
Il faut qu'on voit le prix des machines maintenant. Le rétro est devenu un vrai business. Et même quand tu parles de racheter des pièces de droite à gauche, c'est pareil. Je pense qu'il doit avoir un prix certain.
Bah, pour vous donner une idée, par exemple, on va réparer une Daytona USA. Souvent, ce qui arrive, sur ces machines-là, c'est toutes les Sega ou toutes les bornes en bois, elles ont des tubes cathodiques et derrière, il y a des cartes. Ces cartes-là, en fait, qui sont accrochées au tube, pour en trouver une aujourd'hui fonctionnelle, il faut compter entre 200 et 250 euros quand on trouve une. Aujourd'hui, tu peux mettre entre 150 et 200 euros pour une en panne. Donc on doit les réparer. Moi, je les prends, je fais des cap kits, on appelle ça. En fait, on change des condos qui ont claqué. Enfin bref, je m'amuse à passer des heures à tout changer. Mais ça fonctionne. Mais aujourd'hui, en fait, c'est vraiment de l'or. Donc tout ce qui est composant, en plus en sachant que Sega a annoncé comme quoi ils arrêtaient complètement les bandes d'arcade, il y a une petite année maintenant, même un peu moins d'un an, ils ont annoncé comme quoi ils arrêtaient les bandes d'arcade. Donc ce qui veut dire que toutes les pièces, bah, ça va se disperser et les prix, ils vont exploser encore plus. Donc il y a ça. Et les consoles, bah, alors là, je t'en parle même pas. Hein, quand tu veux récupérer des vieilles consoles, par exemple une Atari Jaguar ou toutes des anciennes vraiment consoles comme ça, ça peut fleurer les 300-400 euros fonctionnels. Et les jeux, j'en parle même pas quand on veut taper des Zelda, le premier Zelda sur Super NES, par exemple. Les prix, ils explosent. Ouais.
Alors, je vais prendre un pavé, puisque j'ai une réserve de pavés derrière ma chaise, que je vais lancer comme ça dans la mare fictionnelle de Radio Campus pour vous demander, mais et pourquoi pas de l'émulation?
Alors,
c'est ça, j'achète ma console, chose. Mais elle m'a coûté tellement cher, je vais la laisser dans la boîte et je vais jouer à l'émulateur à côté.
Non, mais c'est aujourd'hui, je pense que je vais reprendre un youtubeur que je regarde beaucoup, c'est Edward, et lui, il fait beaucoup de présentations et forcément, il le dit aujourd'hui, l'émulation c'est presque obligatoire. On est obligé d'avoir quand même un émulateur à côté. Parce que sinon, on ne pourrait pas découvrir les anciens jeux. Ou sinon, il faudrait dépenser une fortune.
Surtout qu'il y en a qui sont amusés à enterrer leurs cartouches, parce que le jeu ne se vendait pas, donc heureusement qu'il y a...
Atari, Kitty,
entre autres.
C'est ça.
Mais il y a ça, et c'est vrai que lorsque vous allez prendre des vieilles consoles, bah, va falloir les brancher en Péritel. Et pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience de revenir jouer vraiment comme dans les conditions qu'on avait il y a 20 ans, l'écran, voilà, il y a une... Il y a comment dire un sentiment assez différent au niveau visuel quand même. Hein, ça picote un peu.
Quand on met, dès qu'on met une Péritel sur un écran de maintenant, ça pique.
Ah, c'est un pixel.
C'est ça.
C'est un pixel qui bouge.
Non, c'est vrai que ça pique les yeux. Nous, on a le souvenir forcément dans notre tête que quand on branchait la Mega Drive sur notre tube cathodique à l'époque, notre Sonic, il nous paraissait bien plus beau que maintenant quand on le met sur un écran. L'avantage de l'émulation, c'est que sur tous les émulateurs, maintenant, on peut affiner un peu les réglages pour que ce soit plus joli visuellement.
Puis l'avantage, c'est que quand quelqu'un est fan de jeux vidéo, puis il a des enfants en bas âge, il veut leur faire tester, je pense pas qu'il va leur donner la vieille console, les manettes.
C'est ça, exactement.
Joue sur l'émulateur, tu vas pas me casser mon jouet.
C'est ça. Et après, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, sur toutes les consoles, que ce soit PS4, PS5, que ce soit sur Switch, Xbox, un peu moins parce que je suis moins fan de la Xbox, je vais me faire taper là par mon frère. Mais on peut retrouver, ils ressortent tous les anciens jeux, ils font pas de l'émulation, mais par exemple sur Switch, on peut retrouver tous les jeux de NES, Super NES, machin et tout, en prenant les abonnements et tout ça. Et en fait, tout le rétro revient carrément au goût du jour. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux.
On va même pas parler des séries télé ou des films où il y a aucune imagination, on se contente de refaire les mêmes choses.
Exactement. On va refaire Hélène et les garçons et tout ça.
Mais on avait été avec Alain, qui est un membre aussi de l'Another Podcast avec nous, qui voulait racheter des vieilles télés justement pour brancher à ses consoles. Et lorsqu'on essayait télé, je lui ai dit, elle déconne, ta télé. Fait non, c'est normal, ça scintille, c'était comme ça à l'époque. J'ai fait, bon, c'est vrai. Maintenant que je m'en rappelle, c'est vrai.
On met des filtres sur les émulateurs pour faire vintage.
Alors, on va s'écouter un peu de musique, Dominique. Alors, j'ai essayé de passer, puisque tu parlais de Death Note tout à l'heure.
Ouais.
Mais il va falloir m'orienter parce qu'il y a plusieurs musiques qui sont associées à Death Note. Est-ce qu'il y en a une que vous aimez?
L-Theme.
La version de L-Theme.
Ouais.
D'accord, cool, suffit de demander. Hein. On va s'écouter. Donc le A, ça va?
Ah oui, vas-y.
Parfait. Et après, parce que je n'oublie pas, on a quand même Dédé et Rémi qui n'ont pas encore parlé. Hellstein de Death Note sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+ dans l'émission Heureusement en France. On reçoit l'équipe de Missora pour parler de l'événement qui aura lieu la semaine prochaine. Faites une croix dans l'agenda, c'est le 25 février.
25 et 26 ?
Oui.
Et c'est Night and Day.
Exactement.
Mais qu'est-ce qui va se passer la nuit? C'est du teaser, vous en saurez plus tout à l'heure. On va faire un petit point sur l'agenda passé, puisque Dominique, nous avons fait un petit tour ce week-end.
Oh ben oui, on est passé au festival Atrebatia, hein. On avait reçu Virginie il y a quelques semaines.
Virginie qui était venue costumée, et c'est vrai qu'elle nous avait vendu ce qu'on avait trouvé là-bas.
Et qu'on a retrouvé costumée aujourd'hui avec un autre costume. En fait, bah, tous les membres du très imposant staff de Atrebatia étaient tous costumés à tous les endroits. C'était impressionnant au niveau de l'organisation et du staff.
Et donc on se baladait entre trois événements, enfin trois endroits.
Le Beffroi sur la place des Héros, on a même pu aller tout en haut du Beffroi, avec à tous les étages, même du souterrain jusqu'en haut du Beffroi, il y avait des choses sur tous les étages, des exposants, des conteurs, il y avait des musiciens qui se promenaient dans les rues et à l'intérieur des bâtiments, beaucoup d'artisans, des créateurs. C'était très impressionnant. Il y avait du jeu de rôle, j'ai pas pu aller voir, mais
et ça changeait un peu des événements du style médiéval. Tu disais Trolls et légendes, c'était un petit Trolls et légendes, mais
un petit peu. C'était une répétition pour Trolls et légendes qui va arriver bientôt.
Comme c'était dans un beffroi, en fait, tout n'était pas dans une salle. C'était sur plusieurs niveaux. Vous baladez dans le beffroi pour voir.
Magnifique, oui. Un autre endroit, c'était l'hôtel de Guy, qui est aussi un très bel endroit avec des contes, des événements, des animations dans la rue, dans la cour. Et le festival le salon de la littérature jeunesse, avec des auteurs, des éditeurs qui étaient là en dédicace. C'était très très intéressant. Et un autre endroit très prestigieux, le musée des Beaux-Arts, donc c'est le palais Saint-Vaast. On pouvait visiter le musée, et dans le musée, il y avait aussi des exposants qui étaient là, et des créateurs, et des auteurs, des artisans. C'était une très belle occasion de se balader dans des très beaux endroits, en plus, déjà d'habitude, mais en plus, même quand ils sont vides, mais même là, en plus, il y avait du monde.
Voilà, c'était sympa pour les petits et pour les grands. Moi, j'étais accueilli par un cracheur de feu. Ça réchauffe quand t'es dehors, surtout à Arras. Voilà, en tout cas, on les félicite pour cette belle édition, et je pense qu'on les retrouvera l'année prochaine, parce que niveau com, on peut dire qu'ils travaillent très bien. On continue, puisque je vois Rémi qui est en train de râler parce qu'on ne l'a pas encore présenté.
C'est pas vrai, c'est son style en plus.
Alors Rémi, raconte-nous un peu comment tu as rejoint l'aventure, mais surtout, quels sont pour toi tes premiers souvenirs de geek?
Alors pour moi, les premiers souvenirs de geek, étant le petit frère de Geoffrey, il m'a un peu plongé là-dedans aussi. Ça a commencé pareil vers l'âge de 6-7 ans, quand vraiment voilà, tu commences à découvrir un peu le monde.
Et puis lui dis, passe-moi un peu la manette de temps en temps.
Voilà, exactement. Bon, il me passait la manette débranchée. Ouais, j'étais petit, ouais, je gagne, ouais. Bah non, en fait. Et par la suite, j'ai eu mes propres consoles. J'ai commencé par une PlayStation 1, si j'ai bonne mémoire.
Faux.
La GameCube ?
Faux. Oh,
voilà, c'était la Dreamcast.
C'était une console portable.
Laquelle ? La Game Boy ?
C'était la Game Boy Advance.
Ah oui, c'est toi qui me l'avais payé, ensuite les bancs.
Ah ouais.
Eh oui. Oh, moi je jouais tout. Ouais, mais on parle de console de salon.
Ils s'engueulent déjà.
tout le temps.
Non, mais c'est tout le temps comme ça. La Game Boy Advance, avec, sûrement, il y avait Pokémon, j'avais Erasmoquet, tout, donc ça, c'est vraiment les jeux de mon enfance. Avec le temps, j'ai grandi et j'ai un peu lâché les consoles et je suis parti un peu sur PC. Donc, toi, t'as eu ton premier PC dans les années fin 90.
C'est ça.
Moi, j'ai eu le mien, j'avais quoi, 12-13 ans,
ouais,
à peu près. Toi qui m'avais monté un PC, j'étais super content, je jouais à Worms. Je me souviens.
Worms. C'était quand même un excellent jeu multiplayer.
C'est toujours un excellent jeu. Ouais. Ça continue.
Ouais. Donc après, j'ai continué PC. Ensuite, les Xbox sont sortis, je suis parti sur Xbox. Donc voilà notre petite guéguerre. Pro Xbox, Microsoft. Ouais, t'es resté un peu...
Pro Sega, c'est tout.
Pro Sega, t'as pas jamais évolué. On a continué dans le temps. Moi, j'ai continué PC et Xbox. Ensuite, il y a eu l'ouverture du Missora. Donc, moi, je travaillais encore. J'étais barman dans un petit bar sur M. Et les week-ends, quand j'avais fini, je les rejoignais. Bon, après, malheureusement, j'ai perdu mon emploi, entre guillemets. C'est moi qui est parti. Je les ai rejoints. Tous les week-ends, j'étais avec eux, donc au Missora Pub. Il me laissait gérer, des fois il venait plus et ah Rémi tu gères, hein, tu te souviens celle-là. Ensuite le Missora a fermé, moi j'ai retrouvé un emploi derrière, donc j'ai travaillé, je vais pas refaire ma vie mais voilà quoi, j'ai travaillé en restauration chez Buffalo Grill et j'ai loupé pas mal de conventions et il y a pas si longtemps que ça j'ai quitté mon emploi chez Buffalo Grill, j'ai retrouvé un autre emploi à côté et là je suis vraiment investi à 100% dans le Missora.
Or, du coup, tu te sens à l'aise dans cet univers. En plus, vous travaillez un peu en famille ici, on peut le dire.
C'est ça.
Et du coup, là, tu gères quoi dans l'équipe ?
Alors, dans l'équipe, quand c'est notre salon à nous, donc le Missora Day ou encore la semaine prochaine, le Night and Day, moi, je gère tout ce qui va être animation. Donc, l'organisation du tournoi, c'est moi qui l'organise, l'animer. La restauration en elle-même, donc pour le soir, le samedi soir, on fait petite restauration, on fait des frites, des hot dogs, des croque-monsieur. C'est moi qui vais être aux arrières pour
gérer l'équipe.
Voilà.
Alors, d'habitude, on a avec nous Reynald, hein, qui anime
qui
aussi
attend,
l'émission.
Qui attend les questions sur.
Et voilà, c'est à ce moment-là où il se serait un peu réveillé autour de la table pour demander qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit aussi. Est-ce que...
Alors, qu'est-ce qu'on mange ? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être des frites, des hot dogs, des croque-monsieur, donc les petits encas. Et en boisson, ça va être, je pense que c'est
les softs
traditionnels. Bien,
après, comme on est en Belgique, il y aura deux, trois bières spéciales quand même.
En Belgique, les softs, c'est de la bière.
On l'a vu, c'est ça.
À partir de quel âge ? 10, 12 ans ?
Et alors, merci Rémi. Et il y a Dédé, Steve,
c'est ça.
Aussi. Alors toi, tu étais un passionné aussi. Tu peux nous raconter aussi tes débuts ?
Ouais, j'ai commencé à regarder les Chevaliers du Zodiac. Olivier Tom.
Aïe, aïe, aïe.
Tous les anciens.
Donc on appelle ça la génération Club d'eau.
C'est ça, génération Club Dorothée. Et après, je suis resté dedans. Après les consoles, la première, c'est la Nintendo. Après, j'ai eu tout ce qui est Game Boy, 64, Xbox. Player en même temps.
Ouais, t'as raison.
Il se donne des coups sous la table à chaque fois qu'il y en a qui dit Xbox.
Bon, on se connaît depuis longtemps. On habitait dans la même rue. Et après, quand il a offert le bar, c'est là qu'on a continué.
T'es d'abord venu picoler ?
Non, c'est pas vrai. Jamais. Je bois un coca.
Mais du coup, comme on disait tout à l'heure, toi aussi, tu aimes bien réparer et...
Alors, à la base, je suis mécanicien auto. Donc, les réparations... Je fais de l'électronique aussi sur les véhicules électriques. Pour ça.
Du coup, ça t'a aidé pour filer un coup de main
C'est toujours pareil. Tout ce qui est panne électrique, que ce soit borne ou voiture, c'est toujours la même chose.
C'est marrant de voir la liaison qui entre le jeu vidéo et la voiture. Quoi. On voit certains qui conduisent leur voiture un petit peu.
Il y a des clients qui récupèrent leur voiture. Il y a des clients qui récupèrent leur voiture et il y a
Pac-Man. Mais l'électronique, c'est pareil.
Il y a Pac-Man sur le tableau
de bord. Que ce soit un calculateur qui merde ou un condo, c'est la même chose.
On assiste à des scènes de GTA des fois dans la vie réelle.
Ça existe, il faut faire attention.
Moi, j'ai toujours cette vision lorsqu'on parle de réparation de console, c'est je viens avec mon fer à souder et c'est parti.
Ah, c'est
est-ce que c'est vraiment l'élément central de la réparation, le fer à souder ou...
Ouais, le fer à souder, ouais. Malheureusement. On peut passer des heures
au collège, déjà, au premier.
C'est exactement ça, ouais. C'est vraiment exactement ça. C'est le fer à souder et des heures de patience déjà pour trouver le composant, parce que des fois on les voit, mais des fois ils sont cachés. Et donc, ceux qui sont cachés, il faut les trouver.
Donc il faut tester le courant, et une fois qu'on a trouvé, c'est parti. Est-ce que, Dominique, toi tu faisais un peu de soudage ou...
Pas du tout. je suis impressionné. J'ai jamais eu... ça me manque, ça, de jamais avoir mis les mains dedans électronique. J'ai dépanné les PC, mais je ne mets pas les mains dedans, moi, c'est ça.
Mais avoir cette.
Mais je suis très impressionné parce que j'ai déjà regardé des vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de chaînes de gens qui réparent. Ils récupèrent une cinquantaine de vieilles consoles, puis ils essaient de les essayer. Et je vois la technique qu'ils utilisent, enfin, l'expérience qu'ils ont. Ils font des tests de. Pardon, comment ils arrivent? Ils vont chercher des documentations perdues sur des sites pour retrouver la documentation du vieux composant. Et c'est pas le même parce qu'il y a un chiffre qui diffère. Il y a un I et un J, c'est pas du tout. c'est fou, quoi. Mais une question qui m'aide, mais est-ce que le fait de dépanner des consoles ou des machines d'arcade, ça t'a aussi fait progresser du côté, je sais pas, mais enfin électronique auto ou pas? T'as appris des trucs qui t'ont.
Non, je faisais déjà l'électronique.
C'était avant. Vraiment, mais il n'y a pas eu de.
Je faisais déjà l'électronique véhicule avant.
J'avais une super question qui est partie loin, hein, je la cherche. Elle ne revient pas. Ah si, on parle souvent de nos amis du Carpodium avec la fête du flip, où on peut jouer, je ne sais pas si vous êtes déjà parti, c'est un peu le même concept. Vous payez l'entrée, vous jouez autant de flippers que vous voulez, gratuitement. 40 flippers
dans la salle, il n'y a pas que, il y en a pas.
Et souvent, il y a c'est une sorte de petite démo, une personne qui vient avec un flipper cassé, et pendant le week-end, bah, il vient la réparer. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire des animations comme ça, puisque ça peut... intéresser beaucoup de gens, ça reste
un petit peu l'envers du. Est-ce qu'on pourrait avoir des bornes, enfin des OC, c'est pas un petit peu violent, alors, voir un petit peu l'intérieur. Ou...
Alors, c'est vrai que je pourrais le faire, mais pour être franc avec vous, je me suis jamais, je m'expose jamais à tout ça dans le sens où je me montre pas, je reste toujours caché en fait dans mon milieu. D'ailleurs, ma photo, elle est très rarement sur Internet, j'aime pas trop me montrer donc. C'est pas des choses qui me vient à l'esprit. Mmh. En sachant que moi, justement, des fois, je m'inspire. Il y a des pannes que je peux mettre des jours et des jours à chercher et que je ne trouve pas. Et des fois, je vais sur des forums ou alors justement des petites vidéos YouTube pour voir des YouTubeurs qui font ça, justement. Et je pense qu'ils le font bien. Donc, j'en vois pas l'intérêt, moi, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est vrai que ça pourrait être faisable, mais bon, c'est... Puis il faudrait que je mette une caméra, machin.
Ouais, et puis lancer une chaîne Twitch, et gagner de l'argent, quelle horreur.
Les abonnés et tout.
Ah ouais, non. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que la réparation comme ça, c'est universel. C'est-à-dire que Geoffrey, je le vois regarder des vidéos d'un Russe ou d'un Anglais ou d'un Danois, enfin peu importe, et il comprend. Alors que la langue, pas du tout. Mais alors, il comprend rien qu'en regardant ses mains. C'est hallucinant. Des fois, je suis impressionnée de voir qu'il arrive à réparer quelque chose alors qu'il a rien compris au langage du gars, mais ils se comprennent par les mains. Quoi. C'est un autre monde, truc, vraiment.
C'est le langage technique, voilà, qui est le fil conducteur ici. Alors, Rémi, tout à l'heure, tu parlais d'organisation de tournois. Qu'est-ce qu'il va avoir comme tournoi pendant ce week-end? Alors, on le rappelle, hein, 25-26 février. Alors, c'est en Belgique,
Édimbourg. À Édimbourg. C'est au château de Bourgogne d'Édimbourg. À côté d'Étampuis, à côté de Pec. Voilà.
En plus, ça doit être beau là-bas, du coup.
Ouais, c'est magnifique. Magnifique.
Alors, je suis un passionné.
Donc, le samedi 25, c'est de 18h à 1h, c'est ça?
Exactement.
C'est ça. Et le dimanche, donc 26 février, de 12h à 18h. Alors, on va rappeler les prix d'entrée. Le samedi, c'est 8h, 6€ en pré-vente, hein, si on s'inscrit. Oui. Et le dimanche, c'est 7€, 5€ en pré-vente, pardon. Et les deux jours, c'est 12€. 10 euros. C'est gratuit pour les moins de 6 ans. De toute façon, vous allez sur la page Facebook, hein, Misora, M-I-S-O-R-A, et il y a le lien pour s'inscrire, pour précommander, et tout le programme, et les annonces, etc., qu'on va détailler maintenant un petit peu. Qu'est-ce qu'on va voir quand je franchis les portes du château, le pont-levis? Enfin, il n'y a peut-être pas un pont-levis, d'ailleurs, je ne sais pas.
Il y a un pont, mais il n'y a plus de pont-levis.
Qu'est-ce que je vais pouvoir faire et qu'est-ce que je vais voir quand j'entre dans le salon?
En premier, tu me vois, moi. Ça, vachement bien. Mais après, je te prends tes sous. Ça, c'est déjà beaucoup moins bien. Et ensuite, les gars, qu'est-ce qu'on voit?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a prévu presque une soixantaine de machines installées en tout, que ce soit des consoles, des bornes, du VR, des jeux de bagnole. Ça sera vraiment complet à l'intérieur. Le samedi, ce sera plus, on sera vraiment en mode nocturne, dans le sens où c'est samedi soir qu'il y aura le concert à 21h. À 21h, il y aura le concert Pokémon, donc en fait le chanteur officiel Anthony Cabella, qui sera parmi nous. 21h le concert, 22h dédicace de sa part, Et en fait, après, il y a un disque jockey qui sera là et qui sera là pendant une bonne heure. Et il va mixer sur le thème jeux vidéo. Donc, en fait, c'est que des musiques de jeux vidéo qui sont remixées un peu à housse, machin, pour continuer la soirée tranquillement. Et voilà, donc avec les jeux de lumière et tout ça. Donc, c'est ça qui va être chouette, c'est que justement, il y aura toute cette magie du samedi soir. Mais ça restera en tout cas familial, vraiment familial.
Alors, j'en profite, tu parles du générique ici.
Oui.
Alors, il ne va pas jouer que le générique de Pokémon
non.
en boucle.
Tout à fait.
On l'a vu hors émission, il a quand même fait plusieurs musiques de dessins animés.
Générique, oui.
Alors, ça vous dit d'écouter un peu le thème de Pokémon, du coup ?
Allez,
c'est parti. Je vérifie que c'est bien en français, hein. On reste ensemble.
D'accord.
Il y a besoin de dire que c'était le thème de Pokémon, non ? Vous l'avez tous reconnu.
Et donc le chanteur sera en concert le samedi soir dans le château de Bourgogne à Édimbourg.
Exactement.
Avec d'autres chansons, bien sûr. Après un super set de DJ dans l'univers du jeu vidéo, avec un jeu de son et lumière.
Exactement.
C'est ce que je vois. Exactement. Chaque fois qu'on voit vos événements, généralement, voilà, tout est bien agrémenté d'une lumière qui vous berce dans cet univers rétro. Alors, on parlait des différentes animations qu'on pouvait faire lors de ce week-end. Et je l'avais lancé tout à l'heure, mais il est parti, il n'est pas revenu. C'était les tournois.
Tout à fait.
Alors, à quoi va-t-on pouvoir s'affronter ?
Alors, on va organiser un tournoi sur Mario Kart 8 Deluxe sur la Nintendo Switch. Donc il y aura 32 participants.
Qui sont déjà inscrits ?
Non.
Donc il est toujours possible de venir.
En gros, c'est dès le matin, donc l'ouverture
à midi.
Il n'y a pas d'inscription, enfin, de fait pour l'instant. C'est à midi, les gens arrivent, hop, ils veulent s'inscrire, ils s'inscrivent. Donc la place est gratuite. Les gens, ils arrivent, ils viennent se présenter à moi, hop, moi je le marque sur un bout de papier. Ou après, je le note sur mon ordinateur. je fais le tableau. Et après, on lance le tournoi.
C'est 30 joueurs en même temps sur la même course ?
Non. Ça va être 32 joueurs. Ça va être pour la première. Pour la première manche, ça sera 8 poules de 4 personnes qui vont jouer à la suite. Donc, ça va être pas mal. J'allais oublier le plus important. Il y a un lot à gagner. Mais quel lot ? Une Nintendo Switch Lite. Voilà, le grand gagnant repartira avec sa Nintendo Switch.
Ça vaut le coup de s'entraîner là. Il vous reste 7 jours là.
Voilà.
Exactement.
Alors, comment ça marche s'ils veulent le même personnage, hein? On tire au sort. Alors d'ailleurs, c'est une vraie question. Je ne suis pas forcément un adepte de Mario Kart, mais les personnages ont des capacités, enfin pas forcément des capacités différentes, mais le poids du véhicule est peut-être pas le même.
Justement, aujourd'hui, c'est ça qui est bien, c'est que sur les nouveaux Mario Kart, parce que, alors pourquoi aujourd'hui on fait sur Switch, parce que toutes les anciennes éditions, et même sur les autres salons, on a toujours fait du rétro aussi, sur GameCube ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est qu'aussi on a envie de faire gagner et de faire participer les clients, hein, les visiteurs. Et donc, l'avantage, c'est que dans ce Mario Kart, enfin depuis plusieurs maintenant générations quand même, c'est en fait, on peut choisir son personnage et on peut choisir son kart. Ça veut dire que on peut vraiment moduler sa façon de conduite. Et aujourd'hui, on peut vraiment avoir pas deux personnages identiques, mais après avoir presque deux conduites identiques avec deux personnages et deux véhicules différents. Si jamais on prend un gros bonhomme ou un petit bonhomme avec un gros kart ou un petit kart, en fait, les poids, le jeu est vraiment bien fait dans le sens où on peut vraiment gérer un peu la mobilité du tube.
Ouais, parce que là, en gros, maintenant, alors, sur le Mario Kart de, 8 Deluxe, le tout dernier, tu peux choisir, comme tu dis, ton karting. Tu peux avoir le karting de base, tu peux avoir le karting style voiture, tu peux avoir la moto, parce que maintenant ils font la moto, tu peux avoir un quad et tu peux changer les roues surtout.
Ouais.
Et selon ta façon de jouer, ton style, les roues peuvent avoir une influence.
On n'imaginait même pas ça il y a
première génération. Sur le premier Mario Kart,
j'étais content de voir de quel côté de l'écran j'étais. Quoi.
C'est ça, sur le premier Mario Kart, c'est même pas la peine. Tout est normal. Quoi.
Oui, puis bientôt, c'est peut-être déjà le cas, mais sur les tournois, tu peux même arriver, si tu as joué, si tu as déjà un compte, etc., tu as ton propre personnage avec tes propres NFT, skin NFT éventuellement, tu peux venir au tournoi, et puis c'est vraiment détaillé. Tu peux mettre ta tête, si tu veux, sur le pilote. Quoi, c'est...
Alors, d'autres tournois ou spécialisés Mario Kart pour l'instant ?
Il n'y aura que celui-là pour le moment.
Alors, il y a du tournoi, il y a de la VR aussi.
Oui, oui.
Alors, on utilise quel... on est dans quelle gamme de VR ? Plusieurs types...
Tu le fais ? Tu
Ouais, vas-y, fais-le.
Alors, on n'entend que moi.
c'est des spécialistes de la VR.
Ouais. Là, le jeu là, qu'on va proposer en VR, on a, ça fait maintenant 2-3 ans quand même qu'on s'est bien spécialisé aussi à la VR, mais quand je dis de la VR, on est sur de la VR quand même qui est un peu... qu'on peut déplacer. Aujourd'hui, là, on a un jeu...
Des bornes physiques voilà, qu'on voit c'est même... Ça. Je crois qu'à Lille, on a 2-3 maintenant, des salles d'arcade, avec des postes, exactement.
Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, on a du jeu quand même, on a un gros jeu qui s'appelle Ascent, et donc en fait, on est à 4 sur un... Alors, je vais laisser un petit peu le suspense aussi, faudra venir le découvrir, mais en gros, on se retrouve dans une arène, on est à 4, mais on est en coopération. Et donc, le jeu, on est ensemble, en coop, et on doit buter du zombie. Là, c'est plus un peu plus gore que du zombie. C'est quand même interdit au moins de 14 ans. Mais l'avantage, c'est qu'on s'arrête pas juste sur un casque sur la tête avec deux manettes dans les mains. On a quand même un gun dans les mains, on a un gros casque. L'avantage, c'est que là, il n'y a pas de fil, hein, comme dans maintenant les grandes salles. On est sur une scène qui vibre. Donc, on ressent tout dans les pieds. On a aussi des sensations de ventilation qui arrivent dans la tête. Voilà, il y a pas mal de choses. Le jeu en lui-même est complet, donc c'est des parties arcade, hein, c'est pour ça aussi que nous on fait du VR.
C'est une installation qui est déplaçable.
Exactement.
Alors, je ne sais pas lui dire combien de temps pour monter.
Il faut au moins 4-5 heures quand même.
Ok, quand voilà. Même. C'est pas du, ouais,
parce qu'il y a de la structure, il y a le podium, enfin le podium, oui, ça fait une sorte de podium, une sorte de scène, parce que tout est équipé en dessous. Alors l'informatique, et tout est dans un grand fly, hein, tout est déjà prééquipé, mais je veux dire, toute l'installation prend quand même...
Les spectateurs peuvent voir sur un écran.
Ah, exactement. Ça, c'est génial. En fait, tout autour, après de la structure, donc tout autour du carré de jeu, les gens peuvent voir tous les joueurs. Il y a plusieurs écrans qui sont installés partout sur la structure. Donc
on est sur du VR haut de gamme ici.
Oui,
j'avais pu voir ça il y a, je pense, 3-4 ans à la Paris Games Week. Ils avaient fait une sorte de tournoi comme ça, un peu à la paintball, mais tout se passait en VR.
Ici,
on sera un peu dans la même chose, mais niveau plus coopération.
C'est ça.
Où on va évoluer.
Exactement.
On peut voir ça. Est-ce que, par exemple, il y a des objets, on les voit dans le jeu aussi, ou les...
Alors, justement, on est sur... ça sera, à mon avis, ça sera pour la prochaine édition, ou alors le prochain gros événement qui sera, à mon avis, au mois de juin. Mais on en a un, effectivement, on en a un. Le seul truc, c'est que aujourd'hui, le Missora, on aime bien les choses bien finies, dans le sens où, si c'est pour présenter un jeu qu'on a, mais pas avec toutes les fonctionnalités à 100%, ça nous dérange. On n'est pas là à juste donner, par exemple, un casque VR, mettre sur la tête et puis fais ce que tu peux faire à la maison. Donc on préfère finir le jeu. Effectivement, on a un jeu qui est même, même encore mieux que ça, parce qu'en fait, on voit les objets, mais en plus de ça, il y a de la réalité augmentée aussi à l'intérieur. Ça veut dire qu'avec les caméras qui sont dans les casques, on voit l'extérieur, on recrée les... Je vais vous dire, on va mettre un carton au sol, en fait voilà, on le mesure, machin, et en fait dans le logiciel, hop, on le remodule et ça devient une caisse, mais on peut se poser dessus. Voilà, donc en fait, on voit l'extérieur, on voit les gens à l'extérieur, mais on voit les objets qui sont redessinés, on peut se cacher derrière, on va rechercher des armes qui sont invisibles, mais je veux dire, là, c'est dans la réalité virtuelle, mais tout est mélangé. Et donc ça, ce sera à la prochaine édition.
Voilà, donc on paye l'entrée, après on peut essayer la VR, donc
exactement.
Ça vaut vraiment le coup.
Il n'y a pas de concours, mais on peut, oui, si on avait plusieurs équipes, on peut voir quelle est l'équipe qui fait le meilleur temps,
ouais,
ou le qui utilise le zombie. C'est un petit challenge.
Ah, en sachant que tous les scores justement sont écrits sur les écrans, donc effectivement on peut savoir son score.
Alors, je vais paraître l'inculte, hein, de toute façon il est bientôt 19h, c'est pas grave. C'est quoi des kickers?
Ah, des kickers, c'est les baby-foot. C'est parce qu'en fait,
oui,
je suis en Belgique.
Oui, c'est ça.
Pardon.
Ben voilà, mais tout d'un coup, je me sens mieux. Alors, c'est quoi un kickers de nouvelle génération, un baby-foot new age?
Ouais, alors, on connaît les Stella Artois, ouais, ou les choses comme ça, qui sont d'ailleurs... les meilleurs, hein, on peut pas le nier. Mais nous, en étant
région, oui, il y a une société qui fait. Bah, c'est Stella, ils sont
exactement
à Tourcoing.
Exactement, je pense que c'est ça.
Il y a pas longtemps, ils faisaient
vraiment
portes ouvertes.
Exactement. Ouais. Et le truc, c'est que nous, aujourd'hui, on avait acheté des baby-foot, mais on a acheté des baby-foot plutôt dans le sens où on suit avec l'arcade. Donc en fait, ils sont illuminés à l'intérieur, extérieur, et quand on met un but, ils comptent tout seuls. Donc voilà. Alors il n'y a plus cette sensation de bouger la petite bille qu'il y avait pour quand on a marqué le point. Mais... Donc voilà, c'est juste des petits trucs. Mais en fait, c'est surtout pour suivre avec le thème. C'est surtout pour suivre avec le thème arcade.
Il y a de la bière qui se renverse automatiquement dans le baby-foot.
Exactement.
De temps en temps.
Et là, on voit nos clients en train de lécher le bar.
un baby-foot sur le thème Olivier Tom, par exemple. Le baby-foot qui ferait 4 km de long. Et...
On n'a pas la place.
Pourquoi pas. J'ai entendu tout à l'heure, tu parlais des futurs événements. Bah, si vous avez bientôt d'autres événements où vous serez, où vous connaissez, si vous avez l'agenda en tête, n'hésitez pas à les annoncer pour nos éditeurs.
Alors oui, on a un événement qui va se faire à tourner, et qui ça sera de mémoire, c'est le 30 avril et le 1er mai, donc le dimanche et lundi. Ce sera la Craft Beer and Gaming qui se fera à Saint-Luc, à Tournai. au théâtre de Saint-Luc à Tournai. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu... c'est un peu l'école qu'on voit quand on arrive sur Tournai à la sortie d'autoroute et qui ressemble un peu à l'école de Poudlard. C'est comme ça qu'on dit. Hein.
Pas mal de gens qui ont des Poudlard, souvenirs, qui ont étudié à Saint-Luc, qui n'ont pas forcément beaucoup de souvenirs parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à boire de la bière. J'entends surtout des histoires de boissons que d'études, hein, j'avoue, quand ils parlent de Saint-Luc.
Donc, et on a la chance de pouvoir le faire le jour des anciennes portes ouvertes. En fait, les portes ouvertes, depuis plusieurs années, se passaient le 1er mai. Ils ont changé la date et le directeur... nous a donné l'opportunité de nous laisser cette date puisqu'ils ne le font plus cette date-là et on a pu avoir
Craft Beer and Gaming. Ouais, ça promet, il n'y a pas besoin d'expliquer plus loin, ça
suffit. Et après, t'as déjà signé là.
Et après voilà, après ça s'enchaînera, après ça commence à être loin, c'est les gros. Alors on fait plusieurs événements, mais je veux dire voilà, je vais pas les citer tous, mais c'est surtout les événements qui parlent aussi de notre association, quoi.
Le plus simple, rendez-vous sur la page de Missora, M-I-S-O-R-A, pour avoir toutes les informations.
Donc on sera tenu au courant et on annoncera aussi dans l'agenda.
Et puis si vous voulez vous immerger comme ça dans le monde du jeu vidéo, c'est la semaine prochaine, 25-26 février. Avant de se quitter, un petit mot peut-être, je sais qu'il y avait une association, vous gériez une association aussi sur le côté ?
Oui, tout à fait. Tu y vas ? Je vais ? J'y vais. On l'a entendu quoi. Oui, en fait, c'est l'association Bonnet M. Donc, en fait, c'est Bonnet parce qu'en fait, on est avec des personnes excellentes, d'ailleurs. J'adore ces personnes qui créent aussi beaucoup de salons en Belgique. Et donc, on s'associe à personne, hein, mais je veux dire, on a voulu, nous, créer notre association parce qu'on aime bien justement tout ce qui est le monde de l'événementiel et créer des événements. On a fait avec eux, donc eux, c'est leur petit nom à eux, c'est Bonnet, entre guillemets, et nous, le M de Missora, donc Bonnet M, comme les chanteurs. Bon, rien à voir, c'est le petit truc comique qu'on a trouvé ensemble, mais voilà. Et en fait, on crée tout ce qui est festivité, comme là, justement, le craft beer. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que on va pouvoir... faire participer des brasseurs locales. Donc voilà, c'est surtout on crée des événements et on essaye de faire venir les gens de la localité de où on va être. Donc si jamais c'est, je veux dire une bêtise, hein, on va en France à Lyon, et ben on prendra des gens de Lyon, on va à Marseille, et ben on prendra des gens de Marseille, et puis ainsi de suite. Quoi. Okay. Voilà.
Si ça intéresse des gens qui ont une ville, ils ont envie de faire des événements, ils peuvent vous contacter.
Voilà, ils contactent Bonnet M. Attention, vous ne trompez pas. Ça... vous risquez de ne pas avoir de réponse.
Et on ne chante pas, surtout.
Oh, dommage. Au début, mais après quelques bières.
Ouais, c'est voilà. Possible. On s'y met après.
Audrey, Geoffrey, Rémi, Steve, Roman, merci d'avoir participé à l'émission. On merci. Va se quitter, du coup, alors non pas avec du Bonnet M, mais avec du Bonnet M.
Ah. Ah là là là.
Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Merci. Merci. Thank you.
Crazy Life.